Voilà, Matthieu chapitre 6 et le verset 12. Je continue cette série qui me fait beaucoup de bien, personnellement, en réfléchissant sur le Notre Père. La semaine dernière, nous avions vu tout simplement les mots « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Aujourd'hui, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Sujet extrêmement délicat, le pardon. Voilà, chanté ce matin d'ailleurs. D'abord, il n'est pas facile d'en parler parce que on a l'impression que c'est un sujet. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce sujet? Peut-être on dit, mais on sait ce que c'est que le pardon. Mais quand on commence à y réfléchir, c'est quand même un peu complexe. C'est aussi difficile parce que c'est quelque chose qu'on vit. Cette semaine, j'ai dû lutter pour pardonner à quelqu'un. Et j'ai derrière ma tête, quelque part, deux autres cas où je ne suis pas sûr que je l'ai totalement fait. Je lutte. C'est personnel. On est tous dans cette situation. En plus, la notion du pardon n'est pas tellement acceptée aujourd'hui, tout comme au temps des Romains et des Grecs, pour qui c'était tout simplement une faiblesse. Et le grand philosophe Nietzsche disait toujours, le christianisme, c'est une faiblesse. Aimer les gens, pardonner aux gens, c'est la faiblesse. Vivons notre vie, nous occupons pas des autres comme ça. Donc, notion de faiblesse. Sans parler de l'actualité, où entre pardon et vengeance, parce qu'on se croit offensé, quelle est la ligne à prendre si on est chrétien? Faut-il monter au créneau des fois pour défendre notre point de vue? Et l'actualité nous montre que dans certains cas, ça va très très loin. Jusqu'à la violence. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qu'on va essayer de voir dans ce texte. Je trouve que ça m'a fait du bien d'y réfléchir. Mais c'est quand même un peu complexe. Excusez-moi si j'avais l'impression après que vous comprenez moins bien qu'au début. Mais je voulais quand même essayer de réfléchir sur cette question. Alors, c'est quand même intéressant parce que c'est la seule demande du Notre Père qui concerne les relations interpersonnelles, les relations entre les gens. C'est la seule, et en plus, c'est la seule qui est commentée. Parce que un petit peu plus loin, les versets 14 et 15, Jésus revient sur ce point, c'est le seul point sur lequel il revient, pour dire, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Donc, voilà. Deux raisons de prêter attention. On a demandé la gloire de Dieu, on a demandé pour notre pain quotidien, et là, on demande de l'aide pour les relations entre nous. Et pour mettre le pardon au centre du relationnel, n'est pas innocent. Ça veut dire que c'est vraiment très très important. Et c'est la seule demande qui est commentée par Jésus lui-même. Alors, essayons de faire une petite exégèse du texte. On ne va pas tout voir parce que je vais revenir à la deuxième partie tout à l'heure, hein, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais d'abord, pardonne-nous nos offenses. Le mot dans le texte d'origine, et certaines traductions de la Bible le retrouvent, c'est remets-nous nos dettes. Parce que le mot c'est dette. Dans l'origine. Pas au verset 14 et 15. Là, quand Jésus le commente, il utilise le mot faute. Hein? pardonnez aux hommes leurs fautes. Et le Seigneur, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Donc là, Jésus revient au mot, je dirais, normal de faute, dans son commentaire. Mais dans la prière, c'est le mot dette. Pourquoi cela est important? Je pense que c'est important pour la raison suivante. C'est que une dette est une réalité objective. C'est-à-dire que, en parlant de pardon, en parlant d'offense, en parlant de, avec ce langage-là, il est très facile de déplacer le sujet sur quoi? Sur ce que je ressens. Et on en reste là. Alors qu'en parlant de dette, il y a un mot objectif, il y a quelque chose qui s'est fait. En dehors du fait que j'en ai été blessé, il y a quelque chose, une réalité objective qui est là, qui se loge entre les personnes, ou qui se loge entre les personnes et Dieu. Mais cela permet d'annoncer la bonne nouvelle, parce que ce quelque chose qui s'est logé peut être pardonné et même effacé. Et nous l'avons vécu ensemble tout à l'heure, où nous avions pensé de nouveau en passant le pain et la coupe. La dette, en quelque sorte, a été effacée, remise, parce que Jésus l'a portée à notre place. Et donc, on peut dire, selon 1 Jean, on l'a vu il y a quelques semaines, quand la dette est reconnue, et donc 1 Jean a dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Okay? Donc voilà, c'est quelque chose d'objectif qui est fait, en dehors de ce que je ressens. Je pense que ça c'est important, parce que donc, le pardon ne traite pas uniquement ce que je ressens, mais quelque chose qui est là, entre moi et Dieu, entre moi et les autres, qu'il faut traiter. Donc voilà, une première notion d'exégèse, donc de compréhension du texte. Alors, qu'est-ce que le pardon? Alors, j'ai essayé. Moi, je n'ai pas trouvé ça dans un bouquin. Je n'étais pas satisfait de ce que j'ai trouvé, d'ailleurs, dans les bouquins par rapport au pardon. Donc, j'ai cherché à définir moi-même ce que je comprends par le pardon. Et j'ai dit, c'est le pardon, c'est j'affirme à moi-même ou à l'autre que la faute de l'autre, selon ma perception des choses, ne créera plus d'obstacles dans ma relation avec lui. Donc ça, c'est ma définition. Si vous trouvez mieux, je suis preneur. Parce que je n'ai pas été totalement satisfait de ce que j'ai trouvé ailleurs. Donc, j'affirme à moi-même, d'abord, parce qu'il faut que ce soit une démarche intérieure. Et donc, je peux affirmer à l'autre, mais je dis où à l'autre. Parce que parfois, je crois qu'il y a des choses, des petites blessures, des choses qui ont été dites, ce n'est pas la peine d'aller le dire à quelqu'un. Tout ce que ça fait, c'est que ça crée un malaise. Donc, on n'est pas obligé de dire à quelqu'un, « J'aime pas la façon dont tu... » etc. Ça ce n'est pas son problème, c'est mon problème. Donc, je dis à moi-même, mais parfois, j'ai dit à l'autre, où c'est public, où il y a vraiment... une faute vécue et connue des autres. Donc, j'affirme que cette faute, selon ma perception des choses, parce que parfois, l'autre n'y est pour rien. Il m'a blessé sans le savoir. Il n'a pas répété, il a dit un truc. Bon. Ok. Donc, ma perception est quand même importante, parce que j'ai vécu. Donc, j'affirme, soit à l'intérieur de moi-même ou à l'autre selon le cas, que cela ne créera plus d'obstacles dans ma relation avec lui. Parce que le but du pardon, c'est de rétablir la relation. Donc, on a été offensé. Prenons cela comme base. On a été offensé. On a trois possibilités. La première possibilité, on refoule les sentiments. On ne les traite pas, on les refoule. Qu'est-ce que ça donne? l'amertume. On devient amer. Parce qu'on ne l'a pas traité, mais ce n'est pas parti non plus. Deuxième possibilité, je fais éclater mes sentiments. Je ne dis pas la vérité à quelqu'un, je lui dis c'est quatre vérités. Ce n'est pas la même chose. Donc, je fais éclater mes sentiments, c'est la violence, pas forcément physique, mais verbale en tout cas. Ça ne résout pas le problème non plus. Alors, si ce n'est pas refoulé, si ce n'est pas éclater les sentiments, qu'est-ce qui reste? Merci. Pardonner. C'est tout ce qui reste. Même si c'est dur, c'est tout ce qui reste. Je ne vois pas une quatrième alternative. Alors, quel est le but de cela? Comme j'ai dit, c'est de restaurer la relation. Dans Matthieu 18 et le verset 15, nous lisons ceci. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Ou le sommeur dit, si ton frère s'est rendu coupable à ton égard, va le voir en tête à tête. Donc tout ça. Ce n'est pas la peine de mettre tout le monde dans le coup. D'ailleurs, c'est ça un des pires aspects du comportement humain. On dit, jamais je ne pourrais dire ça à la personne, jamais je ne pourrais le dire, mais on ne se gêne pas de le dire à une tierce personne. Là, ça ne gêne pas. Mais aller voir la personne pour résoudre, non, ça, c'est plus difficile. Mais c'est ça aussi le pardon. Alors, et si l'autre ne veut pas? Si l'autre ne veut pas écouter, qu'est-ce qu'il faut faire? On va lire un texte, donc je pense que je le mentionne, Romains 12, 17 à 21. Romains 12, 17 à 21. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur la tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, le texte est tout à fait réaliste. Autant que cela dépend de vous, on ne peut pas obliger la personne à rétablir une relation avec soi. On ne peut pas, si l'autre ne veut pas. Mais qu'est-ce qu'on fait? On cherche quand même à être en paix avec tous les hommes. On cherche à être en paix. Et surtout, et là, l'actualité nous le rappelle, ne vous vengez point vous-même, bien-aimé. Ne vous vengez pas. Le chrétien ne se venge pas. Même si on lui dit des choses, il ne se venge pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le texte le dit bien, en citant Deutéronome, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Un verset qui a trotté dans ma tête toute cette semaine. « À moi la vengeance. » Donc, c'est le Seigneur qui s'en occupe. Ce n'est pas à nous de s'en occuper, à nous en occuper. Ce n'est pas ça. C'est le Seigneur qui s'en occupe. Et le hasard a voulu que... Bon, le hasard. Le hasard a voulu que cette semaine, je décide en début de semaine, j'avais envie de nouveau de lire un de ces grands romans russes que j'aime tellement, les Tolstoï, les Dostoïevski. Donc j'ai été à la médiathèque de Clichy et je sors donc le livre de roman de Tolstoï, Anna Karenina. J'ouvre le livre, premier mot, avant le commencement du récit, sur une page blanche, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Ce verset cité en début de ce roman. Juste au moment où je réfléchissais à tout cela. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à la place si on ne se venge pas? Verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Je ne sais pas si d'ailleurs toutes ces choses-là, c'est ça. On s'en remet à Dieu. Dans un sens, on pardonne unilatéralement. Donc, c'est-à-dire, la preuve qu'on a pardonné unilatéralement, c'est qu'on n'a pas cherché à se venger. Et puis, on fait le bien. Verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et le texte nous dit, c'est comme si on amasse des charbons ardents sur sa tête. Et la plupart des théologiens pensent qu'il s'agit en fait de provoquer une sorte de morsure de la conscience, un certain remords chez l'autre qui a fait le mal. Il est un peu honte parce qu'il voit qu'on ne réagit pas. Voilà. Donc on fait le bien malgré tout. Là, ça fait partie de notre sanctification. Parce qu'on est une nouvelle créature. Comme on l'a lu ce matin. On agit autrement. On agit autrement que ce qui est ordinaire ou normal dans le monde. Alors, qu'est-ce qui m'empêche de pardonner, alors? Parce qu'on a dit, j'ai dit que ce n'était pas normal aux yeux du monde, mais pourquoi c'est tellement difficile en réalité? Et là encore, j'ai cherché à comprendre un petit peu le mécanisme de tout cela, et je suis arrivé à cette conclusion, qu'au fond, c'est un problème d'identité. Un problème d'identité. C'est-à-dire que quand on ne sait pas bien qui on est, on va essayer de se défendre parce qu'on n'est pas bien dans ses baskets. J'ai trouvé même un proverbe indien qui est assez intéressant. Quand un homme veut paraître plus grand, il coupe la tête à ceux qui l'entourent. Voilà, c'est intéressant. Donc ça veut dire, et comment on coupe la tête? C'est pas la guillotine, hein, c'est la critique. C'est parce qu'on ne veut, on n'est pas bien dans sa peau. Donc quand on sait profondément que ma valeur vient de ce que je suis créé à l'image de Dieu, qui m'aime, qui m'a sauvé, qui prépare une éternité extraordinaire pour moi, j'ai pas besoin de me défendre. Je ne sais pas si tu peux. Voilà. Ma valeur me vient de Dieu. Donc, ça veut dire, si je suis offensé, je n'ai pas besoin de me défendre, de me venger, je peux pardonner parce que finalement, je suis déjà bien avec le Seigneur. Par contre, et là, ça touche un peu l'actualité, si ma valeur, c'est un problème. Donc, ma valeur ne doit pas venir du groupe auquel je cherche à m'identifier. Si ma valeur vient du groupe, je vais défendre le groupe. Donc, je risque d'aller vers la vengeance, en quelque sorte. C'est pas bien. Moi, ça veut dire, si on critique l'Église, si on dit notre Église ou les Églises ne sont pas parfaites, je peux dire, ok, je suis d'accord. Parce qu'une église, c'est quoi? C'est un groupe de pécheurs. Pardonnez. Mais nous ne sommes pas parfaits. Donc, si j'essaie de défendre le groupe, il n'y a rien à faire. Je vais aller vers la vengeance. Si je sais que ma valeur vient de ce que je suis aimé par Dieu, là, je peux pardonner. Parce que je sais qui je suis. Et même si l'autre ne veut pas, ou l'autre me dit tout ce qu'il veut, que ça change? Je suis toujours aimé par Dieu, je suis toujours sauvé, j'ai toujours la vie éternelle. Ça n'enlève rien, en fait, de ce qui est vraiment important. Par contre, si je cherche à venger, j'agis à la place de Dieu, il n'est pas glorifié. Il est plus glorifié parce que j'ai pardonné que si je cherche à me venger. Donc là, j'en viens à la deuxième partie de l'exégèse. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire, est-ce que cela veut dire que je suis pardonné parce que auparavant j'ai pardonné aux autres? Bon, d'une part, je dirais a priori, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que ce serait le contraire de tout ce que nous lisons ailleurs dans la parole de Dieu, que nous sommes sauvés par la grâce. Nous ne le méritons pas. Je relis 1 Jean 4, verset 10, parce qu'on avait fait une série sur 1 Jean. Cet amour, donc l'amour de Dieu, consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Donc, à mon avis, on ne peut pas faire dire à ce verset que nous sommes sauvés si nous pardonnons aux autres. Alors, quel est le but de cela? C'est que notre salut est déjà acquis, mais pas encore réalisé. Et nous vivons en tant que sauvés sur cette terre. Et ce salut-là, on peut bien le vivre ou mal le vivre. Autrement dit, pour utiliser un mot qu'on dit des fois sur le plan humain, c'est pour éviter la mauvaise foi. Donc, je sais qu'il faut savoir ce que ça veut dire la mauvaise foi. Là encore, j'ai cherché plein de définitions, je n'étais pas convaincu, mais j'ai trouvé une bonne expression parce qu'en tant que chrétien, on va la réinterpréter pour dire c'est la mauvaise foi. Ce n'est pas la bonne foi, mais c'est la mauvaise foi de dire je suis pardonné, mais je refuse de pardonner aux autres. C'est illogique. La mauvaise foi, j'ai trouvé sur Internet deux définitions. La mauvaise foi navigue entre simple déni et mensonge conscient, dissimulation, jusqu'au déni de la vérité, de ce que l'on pense ou de ses intentions, pour ne pas intégrer une image de soi trop dévalorisante. On dirait tout simplement l'hypocrisie. Un autre, je crois que la mauvaise foi est l'entêtement de certaines personnes à admettre leur tort, tout en ayant la preuve irréfutable qu'elles se trompent et persistent à nier l'évidence. Ça découle d'un orgueil démesuré et de l'étroitesse d'esprit. Donc la personne qui dit ça est en train de dire, mais moi je ne suis pas comme ça. Donc c'est un peu orgueilleux. On n'en sort pas. Non. Disons, la Bible parle en termes d'hypocrite. Et pourquoi hypocrite? Parce que le mot hypocrite vient d'un terme qui veut dire porter un masque. Et les Grecs, quand ils faisaient des théâtres, portaient un masque. Ça veut dire, si c'était une tragédie, ils mettaient un masque avec la bouche comme ça. C'est une comédie, un masque avec la bouche comme ça, avec un sourire. Donc, mais que pensait la personne dans sa tête? On n'en sait rien. C'était l'apparence qui comptait. Donc le pardon, cette deuxième partie de l'exégèse pour moi, est une mise en garde par rapport à la mauvaise foi, à l'hypocrisie. Et il serait bien quand même de lire cette parabole de Jésus dans Matthieu 18, qui est connue, mais qui me parle toujours. Alors, Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Jusqu'à 7 fois. Donc on imagine Pierre qui est en train de dire, ouais, 2 fois, 3 fois, 4 fois peut-être, mais certainement pas jusqu'à 7 fois. Jésus lui dit, pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Et je ne pense pas que Jésus voulait dire qu'il faut sortir, acheter un petit carnet, Et chaque fois qu'il faut pardonner, on marque 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et quand on arrive à 70 fois cette fois, c'est bon. Là, plus besoin de pardonner. C'est un chiffre énorme. Et qui d'ailleurs, sur certains, est une sorte d'allusion, un clin d'œil à la Mecque dans Jean, Genèse 4, qui disait qu'il va se venger 77 fois. Non, c'est pas le pardon, c'est pas la vengeance sans limite, c'est le pardon sans limite, comme on va voir à la fin du texte. Donc je lis cette parabole. Matthieu 18, 23. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulait faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Donc 10 000 talents, j'ai cherché là encore, c'est à peu près 20 millions d'euros. Donc, une somme qui est assez importante. 20 millions d'euros. Comme il n'avait pas de quoi payer, c'est pas étonnant, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants, tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, je te payerai tout. » Ému de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller, lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Alors encore, j'ai cherché, c'est 35 euros. C'est bien de le mettre en termes comme ça. Donc, après qu'il fut sorti, ses serviteurs rencontra un de ses compagnons qui lui devait 35 euros. Il s'assit et l'étranglait en disant, « Paie ce que tu me dois !» Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. De tout son cœur. Donc, on comprend mieux comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Les offenses des autres, c'est 35 euros. L'offense qu'on avait faite à Dieu, c'est 20 millions d'euros. On a offensé le Tout-Puissant. Il nous pardonne. Pardonnons aussi les 35 euros. Deux clarifications. La première. J'ai dit qu'il fallait bien réfléchir des fois à tout cela, parce qu'on peut se tromper sur plusieurs choses. Donc il y a deux petites clarifications. Pardonner, oui, mais oublier. À mon sens, on peut décider, avec l'aide de Dieu, de pardonner. On ne peut pas décider d'oublier. Parce que c'est inscrit, hein, vous connaissez le fonctionnement du cerveau, il y a des petits synapses, il y a des courants électriques, c'est stocké, c'est là, ce que la personne a dit, c'est là, dans notre tête. On ne peut pas l'effacer, ce qui était fait. On peut décider de pardonner, mais on ne peut pas décider d'oublier. Mais, et je crois que c'est aussi tout à fait biblique, on peut aussi aimer au point de dire, je ne peux pas oublier, mais je décide de ne pas m'en souvenir, ce qui n'est pas la même chose. Parce que je peux caresser, en quelque sorte, le souvenir de quelque chose. Donc c'est la preuve qu'on n'a pas vraiment pardonné. On ne peut pas oublier ce qui était fait, mais on peut décider de ne pas nous en souvenir. Ce n'est pas la même chose. Deuxième clarification. C'est le pardon est la base du relationnel, mais pas forcément la base de la société civile. Je veux dire par là que l'État n'est pas appelé à pardonner. Dans certains cas, peut-être, je ne dis pas que ça ne peut pas exister, mais de façon générale, l'État, d'autant plus que nous sommes dans un monde anormal où il y a le péché, a des magistrats, a des lois, et que c'est tout à fait normal dans un sens de vouloir protéger la société, peut-être en enfermant quelqu'un, protéger la société en disant voilà ce qui arrive si on n'obéit pas aux lois, servir d'exemple ou dissuader d'autres, peut-être aussi, avec une certaine pensée chrétienne, réhabiliter des personnes qui se rendent compte du mal qu'ils ont fait. Mais là, c'est autre chose que le pardon. Quelqu'un m'agresse, en tant que chrétien, je suis appelé à lui pardonner. Mais en tant que chrétien, je ne vais pas m'opposer à ce que la police fasse son travail et qu'il soit puni pour son acte. C'est deux choses différentes. Le but du pardon, c'est de rétablir la relation. Le but de la punition, c'est de rétablir la justice. Donc c'est deux choses différentes. Et si on n'arrive pas, enfin, il faut mettre les deux choses dans la tête, autrement, on ne va pas comprendre comment agir dans un monde tordu et pécheur. Ok. En conclusion, une fois n'est pas coutume, j'ai une petite ribambelle de citations que j'ai trouvées par-ci, par-là, qui résument différents aspects de ce que j'ai dit, j'ai trouvé intéressant. D'abord, deux qui sont plutôt de la part de non-chrétiens, la dérision par rapport au pardon. Rien n'est peut-être plus égoïste que le pardon. Ou le deuxième, c'est Jean-Jacques Rousseau. Je connais trop les hommes pour ignorer que souvent l'offensé pardonne, mais que l'offenseur ne pardonne jamais. Bon, j'ai trouvé intéressant, j'ai mis pardon en Google, citation, et j'ai trouvé que la plupart des citations sur le pardon se moquaient du pardon. En fait, hein, c'est intéressant. Donc, j'en ai mis deux comme cela. La suite, ce sont des extraits de citations de livres chrétiens. Faut que je le dise comme ça. Nos sentiments s'attachent au moment où on nous a blessés, lui donnant une sorte d'immortalité. Et ces sentiments nous assaillent chaque fois que l'on y pense. Ces sentiments nous accompagnent dans nos déplacements, pendant nos repas, quand nous sommes au lit. Le texte d'origine disait quand nous faisons l'amour. Et jusqu'au jour de notre mort. Ces sentiments n'ont même pas le bon sens de disparaître quand ceux qui nous ont offensés meurent. Car ces sentiments sont comme une sangsue attachée à notre vie. Il n'y a qu'un seul remède, le pardon. C'est fort, hein, j'ai trouvé ça comme citation. Donc ça veut dire qu'on reste bloqué au moment où quelqu'un nous a dit quelque chose, nous a fait quelque chose. Et cela nous accompagne partout et en tout temps. Deuxième citation. Quand nous pardonnons un acte mauvais, nous ne l'excusons pas, nous ne le tolérons pas, nous ne le refoulons pas. Nous regardons le mal en face, nous l'appelons le mal. Nous sommes choqués par l'horreur du mal. Nous n'acceptons pas le mal, il nous rend furieux. Mais c'est seulement à cette condition que nous pouvons pardonner. Parce qu'on prend au sérieux que c'est le mal. Troisième citation. Pendant des années, vous avez attendu que l'autre change. Je ne parle pas du couple là. Pendant des années, vous avez attendu que l'autre change, qu'il admette ce qu'il a fait. Vous avez dépensé beaucoup d'énergie pour essayer de le changer. Cette énergie ne fait qu'empêcher les plaies de guérir, tout en leur donnant libre cours pour qu'elles ravagent votre vie. Et malgré tout, l'autre n'a pas changé. Et il se peut bien qu'il ne change jamais. On ne trouve la paix intérieure qu'en changeant soi-même. Le pardon ouvre le chemin à la joie, à la sérénité, à la tranquillité, à la compassion et même au rire. Encore une citation. Quand vous renoncez à la vengeance, faites attention de ne pas renoncer à la justice. La ligne de démarcation est fine, à peine visible et instable. La vengeance, c'est notre propre plaisir quand on voit que la personne qui nous a blessés en subit la conséquence. La justice, en revanche, c'est l'assurance que la personne reçoit une juste condamnation pour le mal qu'elle a fait, même si cela ne donne aucun plaisir à celui qui a été blessé. La vengeance se nourrit de la satisfaction personnelle. La justice se nourrit de l'éthique. Pardonner à quelqu'un n'écarte pas la possibilité de l'intervention de la justice humaine. J'aime beaucoup cette citation. Dieu a inventé le pardon comme remède à un passé que même lui n'est pas capable de changer ni d'oublier. Son exemple de pardon, à notre égard, est un modèle pour nous. Ce qui était fait, était fait. Et même pour Dieu, notre péché est fait, mais il pardonne. Et voilà. Pardonner, c'est courageux. C'est pour ceux qui sont prêts à regarder la souffrance en face, qui sont prêts à vivre en tant que nouvelle créature, qui sont prêts à faire des choix difficiles. D'innombrables personnes acceptent de continuer de haïr ceux qui les ont offensés, de leur en vouloir. Ils mijotent ce poison intérieur et contaminent leur entourage. Par contre, ceux qui pardonnent n'acceptent pas de rester dans ce bourbier. Ils n'acceptent pas que, leur vie durant, ils soient la victime des actes injustes d'un autre. Okay. C'est pas de ma faute, c'est l'autre. Mais je peux en être la victime. Et je crois que le dernier, qui est bien. Pardonner, c'est libérer un prisonnier et découvrir que ce prisonnier, c'était toi. C'est très juste. Voilà. Donc voilà quelques réflexions sur le pardon. Prions. Seigneur, nous venons ensemble pour nous réunir le dimanche matin et nous voulons faire le contraire des Corinthiens, où Paul a constaté qu'ils se réunissaient pour devenir pire. Nous voulons nous réunir pour devenir meilleurs. Nous savons que c'est une grâce, nous ne le méritons pas, nous sommes à toi, nous sommes tes rachetés. Et nous voulons apprendre à vivre pleinement le pardon. Nous mesurons la difficulté, mais en même temps, nous sommes convaincus, après avoir entendu ta parole, que c'est ce qu'il y a de mieux pour notre vie. C'est ce qu'il y a de mieux pour la société aussi, même si beaucoup le refusent. Seigneur, aide-nous au moins, nous-mêmes, au sein de notre communauté, dans nos relations aussi, à être prêts à pardonner, comme tu as pardonné aussi nos offenses. Au nom de Jésus. Amen.
Amen.